d'amour et de grâce. Amour du Sauveur en croix. Ah, ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Ah, que partout se répand ce fleuve. Ah, la grande voix, que tout l'univers entend l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Me condamner pour qui tu verses ton sang, sois ô Père ramené par ton amour tout puissant. Oui, je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu.
Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans ce lieu où nous nous retrouvons pour louer notre Père. Bienvenue aussi à ceux qui sont chez eux avec le streaming. Alors soyez aussi les bienvenus, et je crois que nous sommes une famille mérinoise même qui dépasse avec le streaming au-delà de notre commune. Alors soyez aussi les bienvenus et le Seigneur nous accueille les uns et les autres. Vous voyez, il n'y a pas d'enfants. Ou bien, je ne sais pas s'il y en a au fond, mais il n'y a pas d'enfants parce que c'est la sortie des potes aujourd'hui. Donc les potes, ils sont en balade et puis ils vont faire des jeux. J'ai vu que Rebecca a tout préparé. Ça va être très sympa. Dommage qu'on aille un peu des cheveux blancs, mais tant pis. Philippe, notre pasteur Philippe Anchaud est toujours en vacances. Je crois que c'est sa dernière semaine. Il revient cette semaine. Et au niveau de la prédication, donc elle sera un petit peu en deux parties. Il y aura une partie sur le thème « Envoyé comme Jésus ». Et la deuxième partie sera un exemple d'envoi que Jésus a envoyé. Donc Sylvain nous parlera justement de cet envoi et après de cet exemple pratique après en cours du culte. Et voilà, pour démarrer ce culte, je vous propose que nous remettons celui-ci dans les mains de notre Père et que nous puissions attendre avec le Saint-Esprit qu'il nous rejoigne et que nous puissions aussi le rejoindre, que nous ayons les cœurs ouverts à ce qu'il va nous dire aujourd'hui, nous encourager et peut-être nous donner une parole. Alors prions. Oui Seigneur Jésus, nous voulons te remettre ce moment où nous sommes présents ou bien présents par le streaming dans le monde entier. Seigneur, nous voulons dire que nous sommes ta famille, ici à Mérin, mais Seigneur aussi dans toutes les nations, nous sommes tes enfants, tu es notre papa. Et Seigneur, nous voulons te louer. Seigneur, nous voulons que ce culte soit l'expression de notre joie, de notre louange. Et Seigneur, que tu puisses nous rejoindre et nous voulons nous attendre à toi. Alors que nos cœurs soient ouverts, ouvre nos cœurs avec ton Esprit Saint. Nous voulons le demander, Seigneur, pour que tu puisses nous parler, tu puisses nous encourager, tu puisses nous donner une parole. Amen. Merci à l'équipe de louange de me rejoindre.
Torrent d'amour, hein, comme on a entendu au départ, ce chant. Et je rentre dans le lieu saint. Eh bien, soyez bienvenus parce que c'est le mot d'accueil que nous fait notre Seigneur. Et on a des chants qui sont pas mal tournés sur la croix, sur le sacrifice de Jésus. Et voilà, c'est pour ça que je veux faire une petite introduction quand même en précisant, en lisant dans Éphésiens 2, au verset 4 à 10. Ce texte tellement riche qui nous redit combien l'amour de Dieu, il est gratuit et il est offert. Et ce n'est pas par nos actes, ce n'est pas par nos actions, par nos bonnes actions qu'on va plus ou moins être sauvé. Non, on est sauvé parce que Dieu, il nous aime. Et il nous aime tous individuellement, quelle que soit notre situation. Parce que, je lis donc, « Mais Dieu est riche en compassion. Son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire régner avec lui dans les cieux. Wow. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. C'est par la grâce de Dieu, c'est la troisième fois qu'on lit, c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Et ainsi, personne ne peut faire le fier. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu, il nous a créés, il nous a unis avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors là, c'est un texte assez dense quand même, un peu mystérieux quand même. Comment avoir reçu par un homme, Jésus-Christ, mais un homme qui est Dieu, cette libération face au péché. Le péché, c'est quoi ? C'est cette séparation d'avec Dieu, c'est cette forme de prison dans laquelle l'ennemi qu'on appelle aussi Satan, il veut nous faire tomber, il veut nous culpabiliser, il veut dénoncer nos manquements, il veut nous dire qu'on n'est pas bon, il veut nous faire payer nos fautes, il veut nous prouver qu'on n'est pas capable et qu'on ne mérite pas d'être sauvé. Mais Jésus-Christ, et c'est ce qu'on veut rappeler ce matin ensemble avec les chants dans ce culte, mais Jésus-Christ, il est venu pour effacer ses péchés, pour porter nos fautes et pour dire à l'ennemi « non ». Non, c'est mon enfant, tu es mon enfant et tu es délivré. Il nous aime par pure grâce, nous sommes sauvés. Et tout ça, c'est sur une croix en bois qu'il a payée, il a payé de sa vie. Et les chants ce matin, justement, ils nous parlent de cette croix, ils nous parlent de cette grâce. Et je vous invite à prendre ces chants. Merci pour la croix, pour commencer.
t'ont méprisé aussi. On a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds, provoquer l'humiliation en le clouant sans raison. On a craché sur ce aujourd'hui m'éblouit. Jésus, Jésus, merci pour la croix, pour ton sacrifice. Entends-tu les coups qui frappent sur ton cœur? Entends-tu, écoute, car il est bientôt l'heure. Il t'entend à l'oreille de ton âme. Il te tend les bras et te réclame. Viens au secours de mon peu de foi. cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi.
Bonjour. Alors, je vais vous lire dans Jean 20, 19 à 23. Jésus se montre à ses disciples. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit : La paix soit avec vous. Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta : La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit : Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas.
Voilà, bonjour. dans un pays un peu chaud, mais j'ai vu plus chaud que ça. Voilà. Alors, dans ce texte, qui se situe le soir de ce même dimanche, c'est le dimanche de la résurrection, quand Jésus retrouve ses disciples, ce qui m'a accroché dans ce texte, c'est ce « comme le Père m'a envoyé ». Je ne vais pas parler de la fin du texte sur le pardon, je ne sais pas, que je ne comprends pas très bien, voilà, comme il est dit, mais ce « comme ». Les évangiles de Matthieu et de Luc, comme Jean, évoquent ce moment de rencontre avec Jésus, ressuscité, qui les envoie en mission. Alors c'est vrai que dans Matthieu, c'est un cadre différent, les disciples sont repartis en Galilée, mais l'important c'est qu'il y a une mission confiée, la mission de vivre et d'annoncer l'évangile. Alors, Luc, les évangiles de Luc et de Jean, ils se rejoignent dans l'idée que les disciples ont peur. Ils ont peur des Juifs, ils ont peur des autorités. Jésus vient d'être arrêté, c'est quand même une situation compliquée. Et je pense que c'est aussi pour ça que Jésus leur dit « la paix soit avec vous ». D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, l'envoi n'est pas tout à fait précisé au même moment parce que le même auteur va raconter toute l'histoire des premiers disciples qui sont un exemple de la prolongation du ministère de Jésus avec les apôtres et les premiers chrétiens. Mais voilà, la perspective majeure de ça, c'est que être disciple de Jésus, c'est être en mission. Luc comme Jean, Jésus ressuscité apparaît de manière paradoxale, hein, puisqu'il montre les traces de ses blessures, et puis il arrive comme ça, par les portes fermées, ni vu ni connu. J'y comprends rien, hein, du point de vue matériel, donc je ne vais pas vous expliquer ça. Moi, je pense quand même que cette idée que la trace des blessures est toujours là quand Jésus est ressuscité, ça nous dit quelque chose de sa relation au pouvoir. Donc, je vais faire allusion un peu plus tard dans mes réflexions. C'est que le pouvoir de Jésus, à qui tout pouvoir est confié, il n'est pas de la sorte du pouvoir qu'on a l'habitude de concevoir dans ce monde. Alors, comme... Ça vous est peut-être sûrement arrivé que vous avez un ami qui est dans une situation un peu embarrassante et puis il vous dit « Tu ferais quoi à ma place ?» On est un peu embarrassé quand les gens nous disent ça parce que déjà, moi, je ne suis pas à sa place, ni lui à la mienne, donc on ne sait pas très bien comment répondre. Donc on est plutôt perplexe. Puis on dit aussi souvent, peut-être on le dit beaucoup à l'école du dimanche, je ne sais pas, que ferait Jésus à ma place? C'est bien, c'est sans doute une bonne question, mais c'est vrai que Jésus n'est pas à notre place, on n'est pas non plus à sa place, on n'est pas comme lui, on n'est pas Dieu. Voilà. Et puis, si nous confessons Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne faudrait pas que nous, on se prenne pour ceux qui vont sauver le monde. On n'est pas des sauveurs. Alors, une clé de lecture de ce « comme », moi, je la vois quand on revient quelques jours avant, juste, je vais voir si j'ai le texte pour lire, juste avant la mort de Jésus, l'arrestation et la mort de Jésus, quelques jours avant, juste avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples prennent le dernier repas du soir. Mais dans l'évangile de Jean, ce n'est pas pour prendre la Sainte Cène. Il lave les pieds de ses disciples. Il les surprend complètement. À la surprise complète, il se met à leur laver les pieds et il leur dit, Jésus, après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se mit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que vous avez fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, vous avez raison, car je le suis. Si donc, moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. » Faire comme Jésus, bien sûr, on peut répéter le geste, et ça se fait. Je l'ai vécu une fois dans un endroit assez symbolique qui était à Bethléem. Mais cela va bien sûr plus loin, puisque cela impacte la vie tout entière, et pas seulement un geste à faire rituellement. Alors je vous propose ce matin de méditer sur trois aspects de ce « comme ». Il y en aurait d'autres à développer, bien entendu. Avant de conclure sur une courte réflexion sur ce qu'est notre mission aujourd'hui. Alors, le premier aspect, c'est un peu les relations personnelles. Comment Jésus voit, interagit, écoute. Un deuxième aspect, c'est comment Jésus lit la Bible. Alors là, je suis un peu sur un terrain glissant hein, dans une église évangélique, mais voilà, je prends le risque. Et puis, un troisième point, qu'est-ce que ça, la vie de Jésus et que ce texte nous dit sur la relation au pouvoir ? Je crois que c'est aussi un enjeu pour les chrétiens et l'Église. Alors, premier aspect dans les relations personnelles. L'évangile de Matthieu dans le Nouveau Testament... après les débuts du ministère de Jésus, l'enfance et les débuts, il nous raconte le sermon sur la montagne, sur lequel on a eu un certain nombre de prédications ici, hein, Matthieu 5 à 7. Ça fait partie de cinq grands discours qu'il y a dans l'évangile de Matthieu, qui est entrecoupé comme ça entre des discours et puis des actions de Jésus. Alors juste au sortir du sermon sur la montagne, quand il redescend de la montagne, est-ce que vous vous souvenez du premier, de sa première rencontre ? Quelqu'un se souvient ? Pardon ? Non, ce n'est pas l'épileptique. Ok. Je vais quand même vous le dire. Hein. C'est un lépreux. Un lépreux s'approche de Jésus. C'est la première rencontre de Jésus après le sermon sur la montagne. Et, bon, à l'époque, ce n'était pas forcément la lèpre au sens médical du terme. C'est des maladies de peau. On n'avait pas les connaissances médicales d'aujourd'hui. Mais c'était des gens qui étaient intouchables, littéralement. Intouchables et qui devaient rester en dehors de la société. Et dans beaucoup de pays, ça a encore été le cas jusqu'à récemment. Où les gens, bon, on les jette en dehors du village, il faut qu'ils se débrouillent dans la forêt, on va peut-être leur apporter à manger, mais c'est tout, ça fait peur. Ça fait peur, le visage défiguré. Et puis, c'est intéressant parce que c'est pas Jésus qui s'approche du lépreux, c'est le lépreux qui vient vers Jésus. Donc, on a l'impression que finalement, le lépreux, il a déjà compris que Jésus, c'est quelqu'un auquel... duquel on peut s'approcher. Alors, que fait Jésus ? Ben, au mépris de toutes les conventions sociales et des règles sanitaires, vous savez ce que c'est que des règles sanitaires, il touche ce lépreux et le guérit. C'est pour moi comme très significatif que ce soit le premier acte de Jésus au sortir du sermon sur la montagne. Mais c'est un exemple parmi d'autres qui montre comment Jésus guérit, relève, met en valeur particulièrement tous ceux que la société a tendance à rejeter ou qu'on considère comme, voilà, qui sont déconsidérés. D'autres exemples, en Jean 8, il discute avec une femme en plein midi qui est une femme qui a une vie conjugale très tourmentée. D'ailleurs, les disciples trouvent un peu bizarre qu'il parle avec une femme. Et puis elle devient missionnaire pour sa communauté, dans un pays où les femmes n'avaient même pas le droit d'aller à la synagogue. Voilà. Et il met en valeur des femmes à plein de reprises, dans une société patriarcale où leurs droits étaient très limités. Il mange avec des collecteurs d'impôts, c'est les collabos, hein, pour les affreux collabos de l'époque. Il mange avec des pêcheurs, en tout cas des gens qu'on considérait comme des pêcheurs, y compris des prostituées. Voilà. Il met en valeur des étrangers. Hein. Il montre qu'ils ont un peu plus de foi que les bons juifs. Et il les présente même comme modèles parfois aux autorités religieuses qui sont les détenteurs de la bonne théologie, des modèles de la bonne morale. Voilà. Ben, en tout cela, Jésus regarde au cœur des gens, des personnes. Il accueille sans distinction de nationalité, de statut social, de sexe, toutes les personnes, tous ceux qui ont le cœur ouvert, avec une humble sincérité. Et on peut repenser au message de dimanche dernier, hein, sur la loi qui est une loi du cœur. Alors, deuxième aspect, Jésus et les Écritures. Alors, Jésus était pétri des textes sacrés, des textes dans l'évangile de Luc. Oui, on nous raconte comment, quand il avait 12 ans, voilà, sa famille visitait Jérusalem pour la fête, et puis ils l'ont perdu. Ça arrive, hein, que des parents perdent un enfant. Et puis, finalement, il le retrouve dans le temple, en train de discuter avec les théologiens de l'époque. Donc voilà, Jésus a eu accès aux textes bibliques. Il a été vraiment nourri de tous ces textes. Mais il a une attitude qui un peu paradoxale. Parce que dans l'évangile selon Matthieu, justement dans le sermon sur la montagne auquel je faisais allusion, il dit à la fois, il n'y a pas un trait de lettre qui disparaîtra, donc il accorde une valeur immense à ces textes, puis en même temps il a aussi une liberté pour dire, mais moi je vous dis, vous avez entendu qu'on a dit ceci, moi je vous dis. Donc c'est vrai que Jésus interprète, hein, le texte. Et il s'oppose aux maîtres religieux qui l'appliquent à la lettre en montrant que cette loi, c'est une loi du cœur qui est faite pour l'homme. Le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Alors, Jésus interprète, pour moi, il sélectionne quand même. Une première chose, c'est que Jésus fait le choix de la non-violence. C'est très explicite. Pourtant, dans les textes de l'Ancien Testament, il y a des textes extrêmement violents. Et d'ailleurs, les adversaires de la foi chrétienne comptent le nombre de textes violents pour... Il y a des textes qui demandent l'extermination de populations entières et qui sont dans la bouche de Dieu, dans ces textes. Qu'est-ce qu'on en fait ? Avec des personnages impliqués qui sont des personnages aussi connus que Moïse, le prophète Samuel et Élie. Alors, je ne vais pas raconter les histoires, d'ailleurs on a de la peine à les raconter aujourd'hui. Comment les interpréter ? Ça serait un sujet en soi, hein, mais moi je vois ça, c'est mon explication, hein, c'est pas... Vous avez le droit de penser autrement. Mais moi, j'y vois un paysage, un grand paysage qui est extrêmement réaliste sur toute la violence humaine, même quand c'est dans la bouche de Dieu. Mais il y a aussi des bouts de texte qui sont là et qui sortent du lot pour contester cette violence. Il y a par exemple des endroits où on voit que Il aura la victoire, c'est pas par la puissance, c'est pas par la supériorité des armes qu'il aura la victoire. Il y a l'histoire d'Élie qui massacre des prophètes. Le lendemain, il est en pleine dépression. Et puis, il découvre un Dieu qui est une image totalement opposée de Dieu dans le chapitre suivant. Il découvre Dieu non pas dans la foudre ni dans rien d'extraordinaire, juste dans un souffle quasiment inaudible. C'est là qu'il découvre Dieu. Pour moi, c'est des espèces de signes d'autre chose que cette violence qui traverse la Bible et traverse la société. Alors, il me semble que Jésus nous oriente clairement et explicitement vers le refus de la violence. Et on le voit aussi quand il répond à ses disciples qui, eux, sont dans l'idée, ah mais oui, mais Jésus, il est tout puissant, il pourrait, il y a ces villes qui ne veulent pas nous recevoir, il pourrait demander le feu du ciel là sur eux. Jésus leur dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Voilà, ce n'est pas le seul exemple, mais pour moi, ça donne une direction, une espèce de sens vers lequel Jésus nous oriente. Et puis l'autre point sur sa lecture de la Bible, c'est qu'il reprend le commandement qui est dans cette loi du cœur, commandement d'amour du prochain, mais il le déclare comme étant au cœur, comme étant le fondement même de la loi. Et non seulement l'amour du prochain, mais l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui sont inséparablement liés. Et il donne une assise à tout ce que veut la loi avec ce commandement-là. Et ça rejoint aussi quelque chose qui est présent dans tout l'Ancien Testament, à savoir qu'une religion qui ne pratique pas la justice ne sert à rien. Tous les prophètes sont constamment en train de répéter ça. Alors Jésus met ensemble ce commandement d'amour de Dieu et d'amour du prochain, ce qui montre qu'une religion qui n'est pas orientée vers l'amour du prochain ne sert à rien. Et c'est répété bien ailleurs dans le Nouveau Testament. Alors cet amour, c'est vrai qu'il est aussi indissociable du pardon, comme ça a été répété dans les chants, et un pardon coûteux, puisqu'il coûte la vie de Jésus. Un amour qui va jusqu'à l'amour de l'ennemi. Mais ça, c'est un remède libérateur, en fait. C'est un remède libérateur pour celui qui est offensé d'accéder au pardon et d'être libéré de son désir de vengeance qui l'enferme dans la haine. Alors, troisième aspect, l'aspect de pouvoir et autorité. Alors, je reviens à ce que Jésus a dit. Je vous ai donné un exemple. Pour moi, c'est l'exemple d'une vie, pour le dire en bref, l'exemple d'une vie de service humble et fidèle. D'ailleurs, pour ça que j'ai pensé vous donner dans un deuxième temps le témoignage d'une personne du Laos que je connais bien, qui pour moi est un exemple de ça. Alors, il y a pas mal d'exemples de textes qui montrent que comment l'enseignement de Jésus et sa vie vont à l'encontre de nos idées communes d'autorité, de pouvoir, de hiérarchie. Dans Luc 22, par exemple, Jésus dit, c'est à propos de l'épisode où les disciples se disputent entre eux pour savoir qui est le plus important. Ouais. On se demande ce qu'ils ont entendu, mais voilà, c'est, je pense que nous aussi, de temps en temps, sans le dire explicitement, on se demande si on est plus important. Voilà. Alors, Jésus dit, les rois qui commandent le peuple en maître et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs, mais il n'en va pas ainsi pour vous. Puis ensuite, il finit ce texte en disant, « Eh bien, moi, je suis parmi vous comme celui qui sert. » Voilà. Ou dans Matthieu 20, 26, c'est un peu le même parallèle. Hein. « Cela ne se passera pas parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » Donc, il y a vraiment un renversement de ces notions communes de pouvoir. Mais c'est quelque chose qui, là encore, est déjà en filigrane dans l'Ancien Testament. En particulier, quand le peuple commence à avoir envie d'un roi, ils ont été libérés de l'Égypte, où ils étaient esclaves, ils ont passé tout un temps dans le désert, puis ils ont commencé à vivre dans leur pays, et puis au bout d'un moment, ils se disent « Ouais, mais tout le monde a un roi, nous, c'est quand même ça, ça va pas, cette histoire, il nous en faut un. » Le prophète, enfin, Dieu accède à leur demande, mais non sans les avertir, mais vous allez vous faire exploiter, mes chéris. Il va vous prendre des gens pour son armée, il va vous prendre des gens pour moissonner ses propres champs. Voilà, je crois que c'est aussi dans la nature. Ça pose des questions pour aujourd'hui, hein, parce que c'est une tentation de vouloir avoir une autorité et de vouloir avoir des dictateurs. Je pense qu'il n'y avait pas cette tentation dans le peuple, il y aurait peut-être moins de dictateurs. Ça me pose aussi des questions sur nos attitudes. Je me suis posé la question, mais il y a un chant qui dit prosterner. Est-ce que c'est l'attitude que Dieu attend de vous? Je me suis demandé. Hein, sans doute dans un premier temps, un temps d'adoration, mais il s'agit de se relever pour être au service, pas pour être dans l'humilité, mais il s'agit de se relever pour être au service. Dieu attend que nous soyons debout, actifs, engagés humblement dans le service du prochain. Alors, que dire si pour aujourd'hui, notre mission, c'est quoi? Alors, je vais me répéter en disant que je pense que c'est tout d'abord une vie de service dans l'humilité. Une vie tournée vers les autres. Et puis quelque chose qui est une vie, pas juste un moment où on fait un truc, mais l'engagement d'une vie entière. Et il n'y a pas besoin pour ça de réaliser des choses extraordinaires. Il n'y a pas de hiérarchie dans les services devant Dieu. Hein? Celui qui prêche n'est pas plus grand que celui qui nettoie les toilettes. Servir, c'est partager ce qu'on a reçu, en fonction des forces et des capacités de chacun. Et puis servir, c'est quelque chose qui vient du cœur. Puis ce cœur, moi je dois vous dire que parfois il se dessèche un peu, ça s'use un petit peu notre compassion, qui est le cœur de Jésus dans ses relations avec les gens, notre compassion, la mienne en tout cas, des fois elle s'use un peu. À force de voir des difficultés, des trucs. Donc, on a besoin d'avoir un amour qui est renouvelé, une inspiration qui est renouvelée. Et c'est aussi pour ça qu'on se réunit le dimanche. On se réunit le dimanche pour adorer Dieu, mais si cette adoration de Dieu n'est pas une inspiration pour notre service de la semaine, elle sert pas à grand-chose. C'est vraiment les deux ensemble. D'ailleurs, les évangiles montrent souvent Jésus se retire pour prier. Parce qu'il y a aussi la prière solitaire. Et sans doute que moi, je ne suis pas très bon là-dedans. Mais je pense qu'on a besoin. On a besoin aussi de ces temps de retrait. Et puis, une chose que je remarque dans la mission aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont marqué, c'est les personnes qui ont vraiment été des gens au service des autres, comme ça. Et je pense en particulier à un que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelait Bernard Félix. C'est un missionnaire qui ne savait pas très bien parler, qui était un peu original. Probablement que quand il revenait dans les églises puis qu'il racontait les histoires, on l'écoutait. Hein, voilà, parce qu'il n'était pas un très bon communicateur. Mais n'empêche que quand je suis retourné au Laos les premières années après, c'est de lui que tout le monde me demandait des nouvelles. Parce qu'il était tellement... Son service et son amour des gens transparaissaient tellement dans tout ce qu'il était que ça a marqué les gens. Et c'est lui qui a été le fondateur de la léproserie, ça je peux rajouter ici, qui a été fondée il y a 80 ans, quelque chose comme ça, je n'ai plus le chiffre en tête, en pleine brousse, parce qu'on n'avait pas le droit de s'occuper des lépreux près d'une ville. Il a fallu défricher la forêt. Il est né des communautés chrétiennes, deux villages de cet endroit. Et ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, c'est le point de rayonnement de toute l'Église dans cette province, qui est en dehors de tout, alors qu'ailleurs, c'est toujours dans la capitale. Mais là, c'est quelque chose qui a été très marquant, ce travail parmi les lépreux. Je pourrais en citer d'autres, mais voilà. C'est notre mission, finalement, c'est d'avoir le cœur ouvert autour de nous. Personne ne peut accueillir toutes les souffrances, ça c'est sûr, mais chacun de nous peut discerner les personnes autour de lui qu'il appelle à rejoindre. Sur leur chemin, sur leurs difficultés, sur leur chemin de foi, sur leurs questionnements, que sais-je, voilà. Alors, je suis convaincu, moi, que ce message de service, d'humilité, d'écoute, d'ouverture de cœur a une grande pertinence aujourd'hui, non seulement pour nous, mais pour la société. On est dans une société où c'est beaucoup le paraître, hein. Il faut, avec les réseaux sociaux, c'est devenu très très fort cette histoire. Il faut paraître, il faut être une espèce de star, il faut avoir des milliers de followers. Hein. Ce beau mot franglais. Moi, je pense que c'est un petit peu dans ce domaine qu'on est aujourd'hui appelé à ne pas être du monde. Avoir une autre orientation que celle-là dans la vie. Et puis d'ailleurs, juste une petite remarque, parce qu'en préparant le culte avec Claude me disait que parler des soucis de la garderie vis-à-vis de la laïcité. On n'a plus le droit de parler d'éthique chrétienne si on veut être subventionné par la commune. Okay. Alors, bon... C'est un peu une laïcité exacerbée à Genève. Ça, c'est une part des choses. Mais peut-être que ça nous retourne une question. Qu'est-ce qu'eux, ils voient derrière éthique chrétienne? Est-ce qu'ils voient cet esprit de service de l'autre, d'accueil de tous, sans distinction, etc.? Ou est-ce qu'ils voient une espèce de morale qui interdit ceci, qui interdit cela? La question peut se poser. Parce que s'ils voient derrière éthique chrétienne le même type de morale que celle des pharisiens du temps de Jésus, on est un peu à côté. Voilà. Alors, c'est juste une question. Hein. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Maintenant, sur le pouvoir, dernier point, il faut être attentif à cette tentation du pouvoir qui a quand même marqué une grande partie de l'histoire de l'Église et aussi l'histoire des missions chrétiennes. Il y a eu des conférences récemment que vous avez probablement, je ne sais pas, vous avez tous, mais beaucoup d'entre vous ont reçu l'invitation de Philippe pour une conférence qui a eu lieu à côté de la cathédrale, là, au musée de la Réformation. De André Gagné, qui analysait les questions du pouvoir, particulièrement dans les mouvements pentecôtistes. Mais voilà, c'était très intéressant. Et puis, c'est aussi quelque chose que notre voisin Philippe Gonzalez a pas mal étudié. Hein, là. Il y a une tentation du pouvoir dans une partie de la mouvance évangélique. Et puis, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de nommer deux chefs d'État qui rêvent de grandeur. Une forme de grandeur qui, me semble, est à l'opposé de ce qu'est la grandeur selon Jésus. Donc, je pense que nous, on a un message à dire, on a un message à transmettre aussi sur ce genre de choses. Et on doit être attentif à ne pas être séduit par le pouvoir. Parce que du temps de Hitler, il y a quand même beaucoup, beaucoup de chrétiens et d'églises qui se sont laissés séduire. Il y a eu des résistants à ça, mais il y a eu beaucoup. Donc, il faut être attentif aux signes aujourd'hui. Et la paix. Jésus dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Alors, comme j'ai dit, c'est parce qu'eux, ils ont peur. Il y en a de la concurrence, là. Mais je pense que ça a une portée aussi au-delà de nos relations personnelles. C'est qu'on est appelé à être des promoteurs de paix dans la manière dont on dit les choses, dont on discute avec les gens, ben, y compris sur les problèmes de Palestine et Israël. Moi, je reviens hier d'une conférence qui a été organisée par Jean-Jacques Mélan et Jane Mayer, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute aussi, sur cette question de la paix au Proche-Orient et de l'impact pour les églises. Voilà, donc, pour terminer, je voudrais simplement vous donner deux, trois pistes concrètes. Et puis, on entrera dans un temps de prière et peut-être de partage, si quelqu'un a quelque chose à partager. On peut se demander, qui parmi mes proches aurait besoin d'une parole qui relève, qui encourage, qui pardonne? Ou peut-être que c'est moi qui ai blessé quelqu'un, peut-être sans le vouloir, ce qui n'efface pas la blessure. Et puis que c'est à moi d'aller demander, de faire une démarche pour demander pardon. Ou peut-être que moi j'étais blessé par une remarque qui blesse mon amour propre. Moi ça m'arrive, je pense que je ne suis pas tout seul. Mais c'est l'occasion de se demander dans quel esprit je sers. Quand je suis attaqué dans mon amour propre, c'est une bonne petite question qu'on peut se poser pour revenir à la source. Voilà, Seigneur, que ton esprit nous inspire dans notre manière d'être, dans notre service, dans notre attention aux autres, dans notre compassion qui s'use. Seigneur, que ton amour puisse remplir nos vies. Amen.
Alors je vous propose que nous terminions ce moment de prière par le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous propose de vous lever pour ce prochain chant. Saint-Esprit, Esprit Saint. Donc je vous ai signalé qu'il y aurait une Petite deuxième partie par rapport au thème de notre culte, envoyé comme Jésus. Et je vais laisser Sylvain nous parler d'un exemple, donc d'un témoignage à laquelle nous pouvons chacun prendre quelque chose. Merci Sylvain.
Oui, j'avais à cœur de partager un petit bout de témoignage de vie qui pour moi est une illustration de ça. J'étais au Laos donc de mi-février à presque mi-avril. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la prolongation d'un engagement au Laos où j'ai de 72 à 77, à 76, pardon, le premier temps, mais voilà. Un voyage, je ne vais pas vous raconter maintenant, mais qui est riche de multiples rencontres, mais en particulier des rencontres avec cette personne, cet ami, dont je pressentais que c'était peut-être la dernière fois. Le docteur Pafik, pour lequel d'ailleurs on a prié dans notre église, on a même fait un don pour ses problèmes de santé à un moment donné, et aussi pour c'était pour sa voiture et son ministère qu'on a fait un don de notre église. Voilà. Alors, 3 semaines après mon retour, je reçois un téléphone de groupe de son épouse qui nous dit Tanmo paika patia oleo. Le docteur s'en est allé vers Dieu. Ça venait d'arriver, hein, dans la demi-heure après. Alors c'était beaucoup d'émotions, et c'est vraiment quelqu'un qui a une vie de service fidèle jusqu'au bout, qui est très parlante pour moi. Il a grandi dans une famille bouddhiste. Je sais que c'était dans la province de Khammouane, qui était juste au nord de la province de Savanakhet, dans laquelle, avec Françoise, mon ex-épouse, avons vécu nos deux premières années. Donc, dans cette province un peu plus au nord, il s'est posé des questions quand même sur la spiritualité, sur la foi. Et il a eu un premier contact avec l'évangile avec un missionnaire qui était là-bas, qui était le Jan Piet, lié à Portes Ouvertes. Et puis en 1970, il s'est engagé comme infirmier dans un hôpital de province à Paksong Lahanam, à 100 km au sud de Savanakhet. Alors là, je fais un petit détour parce qu'il faut quand même exprimer la reconnaissance envers Armand Heiniger, qui a été l'initiateur de ce projet, qui avait une collaboration avec des partenaires œcuméniques à l'époque. Fallait le faire parce que c'était pas du tout dans l'air du temps des églises évangéliques. Il y a eu comme missionnaire docteur Chris Maddox et sa femme Catherine, qui étaient des anciens missionnaires en Chine, mais qui étaient des gens aussi vraiment merveilleux par leur service qu'ils ont accompli en Chine, en Thaïlande, au Laos, voilà. Donc je reviens à Pafik, qui se convertit à l'évangile justement avec ce docteur Maddox, dont il a eu un modèle de ce que c'était qu'une vie chrétienne de service. Il s'est formé comme médecin, comme ophtalmologue avec Madame Maddox. Donc, il a été imprégné de cette manière de vivre l'évangile. Puis, au bout de 5 ans, arrivent les communistes au pouvoir. L'hôpital où il avait travaillé s'est démantelé, tout est ramené à l'hôpital provincial. C'est la fin de la mission pour les missions traditionnelles, dont la mission suisse. Donc, tout le monde doit rentrer. Et à cette époque, plein de gens ont fui le pays. Des gens qui avaient des formations, je pense que c'est des médecins, des ingénieurs, la majorité, sont partis progressivement. Pafik et Sukwan, ils auraient pu partir. C'est le couple que vous voyez là. Ils auraient pu partir s'ils avaient décidé de partir pour l'avenir de leurs enfants. Ils venaient d'avoir leurs premiers enfants. Le docteur Maddox aurait tout fait pour l'accueil en Angleterre. Non, ils ont décidé de rester. au service du pays. Puis d'ailleurs, à ce moment-là, Pafik, il était le seul à l'hôpital à savoir faire des opérations. Il n'avait plus personne. Et puis, je crois que dans tout le pays, il était le seul ophtalmologue. Donc voilà, il est resté, puis il a subi des pressions à un moment donné. Les autorités communistes voyaient d'un très mauvais œil son engagement dans l'Église, ses responsabilités dans l'Église. Donc ils sont même venus parler à sa femme. Vous voyez, s'il quitte ses fonctions dans l'Église, on va pouvoir lui offrir une formation à tel endroit, etc. Voilà. Il a résisté à toutes ces pressions. À un moment donné, il voulait l'empêcher d'aller visiter les chrétiens parce qu'il allait visiter les chrétiens partout. Et puis, ils l'ont mis en... comment est-ce qu'on dit en français ? House arrest, c'est... résidence surveillée. Résidence surveillée, oui. Voilà, il n'avait pas le droit de sortir de chez lui. Et puis, j'ai découvert, parce que alors que j'allais toujours visiter à cette époque en logeant dans un hôtel tout près, puis j'allais frapper à sa porte, je frappe à sa porte et j'ai Sukuan, cette dame qui est là, qui m'accueille, me dit on ne peut pas vous recevoir cette fois. Parce que comme ils étaient sous surveillance, ils ne pouvaient pas accueillir un étranger. Okay, c'était... Mais... Bon... Donc ça se calme, c'est pas grave. En fait, il réussissait quand même à visiter les chrétiens parce qu'il s'était aperçu que c'était surtout sa voiture qu'il surveillait. Donc il en a pris une autre. Voilà. Et alors, à un moment donné, avec l'aide d'une mission chrétienne norvégienne, il a fondé Il est devenu le directeur du centre ophtalmologique de Savannakhet, qui est un centre qui a eu un rayonnement assez extraordinaire. Et il allait dans tout le sud du pays faire les opérations de cataracte, notamment. Puis en même temps, il rencontrait les gens. Il y avait toujours des gens qui avaient des problèmes médicaux dans les villages. Et puis il faisait tout ce qu'il pouvait pour les aider. Il prenait des médicaments avec lui. Donc il était connu partout. Mais quand on voit la simplicité de sa maison, c'est frappant, là, parce que toutes les personnes importantes, elles ont des belles maisons, des grosses voitures. On ne sait d'ailleurs pas d'où vient l'argent, mais ça, c'est... On sait qu'il vient par des moyens pas tout à fait légaux, mais voilà. Lui, c'est vraiment la simplicité. J'ai fait de multiples voyages avec lui pour visiter des églises. Et on l'appelait tout le temps au téléphone. Dès qu'il y avait des chrétiens persécutés dans un village, ou dès qu'il y avait des chrétiens qui se crêpaient le chignon dans un lieu, ça arrive aussi là-bas, on le téléphonait à lui. Parce que quelque part, il était à l'écoute, il pouvait aller visiter les gens, il pouvait donner des conseils, et il ne se laissait pas écraser par les problèmes. Alors bien sûr, il y aurait plein d'autres choses intéressantes à raconter sur son parcours, mais c'est ce que je voulais souligner, c'est cette vie de service qui est depuis sa conversion jusqu'à son décès, qui a été un témoignage d'engagement fidèle. Alors bien sûr, il a un parcours particulier et il n'y a pas des gens qui peuvent le remplacer parce qu'il n'en a pas. Personne n'est à sa place non plus. Mais chacun est appelé à trouver dans son propre contexte comment incarner la compassion de Dieu pour tous les êtres humains. Voilà. Je voulais partager sur ce monsieur. Je sais pas, t'as pas montré la deuxième diapo, là, ça c'est son travail d'ophtalmologie. Voilà.
Merci Sylvain. Merci à Sylvain. Merci aussi pour cet exemple concret. Et je crois que, comme l'a dit Sylvain, chacun dans son vécu, dans sa personnalité, est un témoin de ce qu'il vit et de ce qu'il peut partager. Je vous propose maintenant un temps de collecte. Donc je vais demander aux personnes que j'ai sollicitées s'ils peuvent prendre les... Donc pour la collecte, soit vous avez le QR code, soit vous avez Twint, soit vous avez la petite boîte. Donc notre église vit de vos dons. Donc merci d'y faire bon accueil. Pendant ce temps qu'il y a la collecte, je vais demander à Michael et Vander et Clémentine de s'approcher. Alors, Michael et Vander vont retourner au Brésil. Ils ont vécu toute une période parmi nous. Et je crois que c'est le dernier dimanche où ils sont avec nous. Alors, je tenais à les saluer. Et ils vont dire quelques mots et Clémentine va faire la traduction.
Bonjour à tous. Bom, eu me chamo Vander, essa é minha esposa Michele. Nós temos uma filha chamada Bia. Ok.
Oui, je me rappelle.
Vander. Ok, nós viemos aqui, chegamos aqui em agosto do ano passado.
Nous sommes arrivés ici le mois d'août l'année passée.
Eu vim trabalhar no CERN de 1º de setembro a 31 de março deste ano.
De setembro jusqu'au 31 mars de cette année.
E nós resolvemos ficar mais 3 meses até que a Bia terminasse o ano escolar dela.
On a décidé de rester 3 mois de plus jusqu'à Bia termine son année scolaire.
E essa foi a atividade mais importante para nós, que foi permitir com que a Bia ficasse mais 3 meses para terminar a escola.
E outra razão a mais importante, justamente, de prolongar esse séjour ici, é porque notre fille finisse cette école.
E quando o Matthews me convidou para falar algumas palavras aqui.
Quando me convidou para dizer quelques mots ici.
Eu achei que essa seria uma excelente oportunidade para agradecer a todas as pessoas com quem nós tivemos algum envolvimento.
Isso é uma das razões por remercier chaque personne que avec qui j'ai eu contato, nous avons eu contato de la que nous a été fait.
E pedir desculpa para as outras pessoas que nós não tivemos envolvimento por dificuldade da língua.
E hoje on s'excuse de ne pas avoir de contato avec tout le monde à cause de la langue.
Nós fomos muito bem acolhidos. Eu falei com o Thierry a primeira vez, com o Matthews.
Je suis très reconnaissant. Je parlais la première fois avec Thierry, avec quelques-uns.
Thierry nos ajudou a encontrar uma professora de francês para Michelle, que foi a Christine.
E Thierry nos a encorajou a trouver des personnes e nos a montré, fait connaître Christine, que nos a beaucoup aidé avec notre fille dans le français.
Enfim, queria agradecer a bondade e o acolhimento de todas as pessoas com quem nós tivemos envolvimento, Zena, Thierry, Matthews, Pastor Felipe.
Eu remercio plusieurs personnes qui l'ont cité le nom que vous connaissez par l'accueil, par l'amour que l'a été manifesté.
Nós temos mais uma semana aqui e voltamos para o Brasil no dia 29 de junho.
On reste encore une semaine et on retourne le 29 au Brésil.
E uma das coisas que nós percebemos nessa igreja é o acolhimento, o envolvimento com a igreja nas missões e o envolvimento da igreja com a comunidade.
Oui, ce que nous reconnaissons, c'est le grand impact que a cette église dans la communauté, aussi avec les missions et en général.
Muito obrigado a todos.
Merci. Est-ce qu'on peut prier pour vous? Est-ce que tu es d'accord?
Oui, Seigneur, je te remercie. Portugaise de pouvoir accueillir ces couples, cette famille, de les avoir fait ce que j'ai pu dans mes moyens. Vraiment que c'était un grand privilège et de voir aussi leur dévouement pour l'intérêt de sa fille. Ça passait avant tout que cet enfant puisse apprendre le français et progresser. Et c'est vrai, nous voulons les bénir dans l'avenir aussi, dans leur retour au pays, pour que tout ce qu'ils ont reçu ici puisse aussi le partager plus loin. Et nous les bénissons en tant que famille dans le nom de Jésus. Amen.
Obrigado. Voilà, maintenant je vais demander à Marie-Claire, Marie-Claire de la paroisse protestante, qui va nous donner, et puis Naïdé, qui vont nous donner quelques explications concernant la suite de nos cultes.
Bonjour à tout le monde. Des explications, je ne vais pas trop allonger. Simplement, j'ai le plaisir de vous inviter à nos cultes en commun de l'été. Ils débuteront dimanche prochain, le 28 juin, au centre paroissial œcuménique, et nous nous réjouissons de nous y retrouver tous.
Dans le thème de la paix. Dans le thème de la paix, voilà. Nous allons faire ce cheminement et traverser tout l'été avec la paix.
Merci beaucoup. Juste encore deux ou trois annonces. Donc dimanche 28, donc ça sera au CEPOM, ça ne sera pas ici, comme l'a dit Marie-Claire et Naïdé. Mercredi 1er juillet, grillade dans le jardin, ici. Mardi 7 juillet, donc Merlin-les-Bains, on vous donne tous rendez-vous derrière le centre commercial, dès 14h30. Et puis n'oubliez pas de prendre pour le cours Alpha Live, n'oubliez pas de prendre quelques fascicules pour les invitations, quelques inscriptions. Et réfléchissez bien, qui c'est que vous pouvez inviter, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas d'invité, le cours Alpha, on a beau organiser, mais ça tombe un peu d'allô. Alors prenez ces invitations. Voilà, je vais prier pour remercier encore pour l'offrande. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour cette offrande. Merci aussi pour toutes les personnes qui soutiennent notre Église. Et Seigneur, nous voulons qu'elle soit vivante, nous voulons qu'elle soit mérinoise et qu'elle dépasse nos frontières. Alors Seigneur Jésus, nous voulons que les personnes qui gèrent, merci déjà pour tout leur service. Et Seigneur, que tu les bénisses aussi, que tu les inspires. Et Seigneur, que nous voulons te remettre, on profite de te remettre notre conseil, notre pasteur et l'équipe pastorale. Seigneur, qu'elles soient inspirées par ton Esprit Saint. Alors Seigneur Jésus, nous voulons te les remettre entre tes bonnes mains. Et Seigneur, que tu puisses faire fructifier les sous que notre Église reçoit. Amen. Alors, je vais vous proposer un dernier chant qui va dans le thème, parce que c'est « Envoyé comme Jésus, donc Jésus, je te suivrai ». Je vous demanderai de vous lever. Et après, nous aurons la bénédiction par Sylvain.
Pour la joie quand le soleil inonde sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai.
pouvez rester debout. Cette parole de Jésus s'adresse à nous aujourd'hui. Je la redis, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Seigneur, renouvelle nos motivations à l'aune de ton amour inconditionnel. Ouvre notre cœur à ceux qui ont besoin d'encouragement, de présence, d'écoute. Et fais de nous et de ton Église des artisans de paix et un signe de ta présence au cœur de ce monde. Amen. Amen. Bonne semaine.
Voilà, donc dimanche prochain à 28, c'est au Centre œcuménique, c'est aussi à 10h. Et profitez de rester pour boire un café, pour un petit moment convivial, et puis de parler avec nos amis Vander et Michele. Bon dimanche à chacune et à chacun.